beaucoup de choses. Je vais accueillir maintenant le docteur Marie Bérard. Vous êtes gériatre à l'hôpital d'Oissel, chez CHU de Rouen. Vous allez nous parler de cette décision très difficile, celle de placer son proche Alzheimer en EHPAD, et d'autant plus difficile depuis la publication du livre « Les Fossoyeurs », un ouvrage qui a fait scandale et qui a donné une image très très négative de ces établissements.
Merci beaucoup. Donc effectivement, on vous a envoyé très très haut, très très loin avec les deux présentations très scientifiques. Là, on va revenir à des choses plus pratiques. Donc je voulais d'abord remercier la Fondation Recherche Alzheimer de m'avoir demandé d'être présente aujourd'hui pour aborder voilà, ce sujet qui concerne la difficile décision d'entrer en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il est commun, lorsque la maladie d'Alzheimer est évoquée, d'y associer systématiquement l'entrée en institution. Or, il n'y a pas de fatalité et cette entrée est loin d'être inhérente à la maladie. Divers films, reportages ou scandales ont éclaboussé, effectivement, dénigré les EHPAD ainsi que les personnels qui y travaillent. Il y a eu le film Flore il y a quelques années, ou plus récemment le livre intitulé Les Fossoyeurs, ce qui inquiète à juste titre les citoyens et plus particulièrement les familles concernées. Par ailleurs, le Covid, le confinement de nos aînés et la distanciation imposée par cette épidémie font qu'il est encore plus difficile aujourd'hui de prendre cette décision d'institutionnalisation, y compris lorsque cela semble nécessaire. Même si cette décision doit être anticipée, il n'y a pas lieu de l'évoquer de manière systématique dès la pose du diagnostic ou à chaque consultation de suivi, car cette entrée en institution ne concernera environ que 50% des malades. Cependant, l'évolution de la maladie, l'apparition de troubles gênants au domicile ou épuisant l'entourage, un logement inadapté, des mises en danger vont faire que cette entrée en EHPAD va devenir une option, voire être inéluctable. Et il faudra donc aborder avec le patient et sa famille cette décision pour permettre à tous de cheminer à son propre rythme. Chez certains patients totalement inconscients de leurs troubles et ou de leur sévérité, il sera très difficile d'envisager l'institutionnalisation, d'autant que je n'en suis pas encore là, ou en EHPAD, il n'y a que des vieux. C'est ce qu'on entend classiquement. Pour d'autres, cette décision sera plus évidente à prendre car le patient aura conscience des difficultés à rester seul ou de la charge imposée à son entourage. Évidemment, il sera cependant difficile d'aborder le sujet avec le patient, mais aussi avec ses aidants, d'autant que la famille aura souvent beaucoup investi la prise en charge du malade et qu'elle n'envisagera pas, même épuisée, de passer la main à de tierces personnes qui ne s'occuperont jamais, selon ce qu'elles pensent, aussi bien qu'elles, du patient. Dans tous les cas, l'entrée en EHPAD ne doit pas être prise comme une punition ou un échec dans la prise en charge du sujet, qui, rappelons-le, est atteint d'une maladie chronique, complexe, d'évolution inexorable. Alors, quelles sont les difficultés que l'on va recenser les plus fréquemment qui vont être à l'origine de cette décision d'entrer en EHPAD ? Très fréquemment, on va retrouver l'isolement. Le malade isolé peut vouloir spontanément entrer en établissement pour rompre sa solitude et retrouver des liens sociaux, et cela lui permettra également de diminuer l'anxiété liée à son isolement. Pour d'autres patients très isolés sur le plan familial et social, la grande dépendance, la dénutrition, les chutes ou les mises en danger vont précipiter l'entrée en EHPAD. Nous pouvons également noter l'existence, le développement des troubles psychocomportementaux qui peuvent entraîner un épuisement de l'entourage, ce qui est le cas y compris pour l'apathie, mais également pour l'agitation, les troubles du sommeil, ainsi que d'éventuelles mises en danger avec ce que l'on appelle de l'errance. On dit souvent le patient fugue ou il erre. L'aidant, son état de santé, son épuisement, souvent en lien avec un surinvestissement auprès du malade, mais également sa tolérance, qui est mise à mal parfois, alors que les troubles pourraient sembler légers, et ça peut être également à l'origine de l'entrée en EHPAD du patient de façon plus ou moins précoce. La grande dépendance, à laquelle la famille ne pourra pas toujours faire face, la défaillance de l'entourage ou l'inadaptation du logement sont également des facteurs favorisant l'entrée en établissement. Le dernier cas à évoquer est également celui des couples, dont chacun des membres est atteint d'une maladie d'Alzheimer ou apparentée pour les dents, s'il est atteint d'une pathologie grave. En effet, la plupart du temps, le maintien à domicile du malade n'est possible que si le conjoint ou l'aidant est plutôt en bonne santé et peut donc assumer certaines tâches, comme surveiller, alerter et aider. Lorsque les deux membres du couple sont malades, cela n'est malheureusement pas possible et il faudra envisager l'entrée en EHPAD de l'un, voire des deux membres du couple. Il est important, même si le praticien n'aborde pas le sujet à chaque consultation, que ce dernier identifie, en lien avec les évaluations réalisées en équipe, des signaux d'alarme qui vont lui permettre d'accompagner le patient et son entourage vers cette décision et les démarches nécessaires pour entrer en établissement. Car il est essentiel d'éviter autant que possible l'entrée en urgence, qui est souvent mal vécue par le patient et par son entourage, dans un établissement imposé par l'urgence et non choisi, si on peut dire sereinement, par l'ensemble des protagonistes, famille et patients. Il est donc difficile, comme nous venons de le voir, d'aborder le sujet avec le patient et avec sa famille au bon moment. Ce moment qui permettra au patient d'exprimer sa volonté, de verbaliser ses craintes ou ses attentes. Ce moment qui permettra à l'aidant de dire pourquoi il pense à placer son proche, lui permettra d'exprimer sans jugement son éventuel épuisement qui ne doit en aucun cas aller jusqu'au burn-out, qui aura des conséquences importantes comme une hospitalisation de l'aidant en urgence, une tentative de suicide, voire le décès de l'aidant de façon brutale, et ainsi précipiter l'institutionnalisation de l'aidé dans un établissement qui ne sera pas toujours adapté à ses troubles ou à ses capacités financières. Très souvent, au moment d'aborder le sujet de l'entrée en EHPAD, j'expose aux patients et à la famille la nécessité d'effectuer des demandes dites de précaution. Je leur explique qu'il s'agit donc d'instruire des demandes dans des établissements sur un logiciel spécialisé qui s'appelle Trajectoire et que surtout cela ne les engage en rien vis-à-vis de l'établissement. La famille, éventuellement aidée par l'assistante sociale qui va les accompagner, doit renseigner une partie administrative et le médecin remplira une partie médicale et des renseignements concernant l'autonomie du patient. Il sera précisé dans la demande qu'il n'y a pas d'urgence et le patient sera placé sur une liste d'attente, une file d'attente, et la famille devra renouveler régulièrement la demande selon une fréquence imposée par l'EHPAD. En règle générale, entre 3 et 6 mois. Concernant cette demande de précaution, je leur explique son utilité car il est nécessaire d'avoir un plan de secours, un plan B, si le maintien à domicile que nous accompagnons ne pouvait pas se faire, et j'utilise pour cela souvent une analogie avec les assurances. En effet, lorsque l'on souscrit une assurance auto ou habitation, ce n'est pas parce que l'on pense que l'on va avoir un accident ou un dégât des eaux, mais si jamais cela se produit, on pourra la faire valoir. Pour la demande de précaution, c'est pareil. Professionnels et familles, nous essayons de maintenir l'aidé à domicile, mais si cela n'est pas possible pour tout un tas de raisons, alors nous aurons une solution de secours, nous utiliserons l'assurance. Cela me permet ensuite d'interroger le patient sur l'endroit où il aimerait aller si ce cas se produisait, car je lui rappelle souvent que s'il veut gouverner sa vie, il doit prévoir. Et cela peut permettre au patient de commencer à cheminer, voire de se projeter. Lorsque la demande trajectoire est finalisée, je préconise à la famille, en l'absence de degré d'urgence, de ne pas toujours revenir sur le sujet afin de ne pas stresser le malade. Cette demande doit être comme un papier qu'il faut mettre au fond de sa poche avec son mouchoir par-dessus et que l'on ressortira si nécessaire. C'est de la précaution. Cette technique fonctionne souvent bien et est bien comprise par le patient comme par sa famille. Si le maintien à domicile commence à se fragiliser, la famille réactive la demande auprès des établissements, ce qui permet de remonter le patient au haut de la file d'attente et de le prioriser pour les prochaines entrées. Bien évidemment, si les démarches ne sont pas faites, cette priorisation ne peut pas se faire, le patient n'étant pas connu de la structure. Dans certains cas, le patient, comme la famille, nous oppose un refus obstiné à déposer des demandes de précaution dans les établissements. Après avoir essayé de recueillir auprès du patient et de son entourage les raisons de ce refus, si la décision persiste malgré toutes les explications et les tentatives de convaincre que moi-même ou les autres membres de l'équipe prenant en charge le patient auront réalisé, alors je consigne ce refus dans le dossier et dans le courrier que j'adresse au médecin traitant. Lors des rendez-vous ultérieurs, je tenterai de nouveau d'évoquer le sujet en m'adaptant bien évidemment aux caractéristiques du patient et de son entourage. Dans certains cas, malheureusement, il n'y aura pas d'autre choix d'attendre qu'une catastrophe, entre guillemets, se produise. Lorsque les signaux d'alarme que j'ai identifiés commencent à clignoter, chute, dénutrition, errance, épuisement de l'aidant notamment, j'explique aux patients et à la famille mes inquiétudes concernant le maintien à domicile. Et souvent, je dis aux patients, cela me soucie. Voilà. Votre état de santé me soucie, les conditions dans lesquelles vous vivez actuellement me soucient, lorsque je m'adresse au patient lui-même. C'est le temps de réactiver les demandes de précaution si elles ont été déposées ou d'alerter le malade et ses proches sur la nécessité de déposer rapidement ces demandes d'entrée en EHPAD. En attendant cette entrée éventuelle, nous proposons de majorer ou de modifier les aides en place. Cependant, la diplomatie que j'utilise avec le patient, dont il faut toujours préserver le narcissisme, la famille qu'il faut valoriser et soutenir, cette diplomatie ne permet pas toujours au patient et à son entourage de réfléchir aux conditions du maintien à domicile et souvent une conduite d'évitement du malade, mais surtout de ses proches, est constatée. Dans ces cas-là, eh bien, je mets carrément les pieds dans le plat pour générer une prise de conscience, notamment si le maintien à domicile commence à se fragiliser. Et j'utilise des termes beaucoup plus alarmistes. Il arrive également fréquemment que le patient refuse l'entrée en établissement alors que la famille la souhaite. Dans ce cas, avec la famille, nous instruisons cependant un dossier trajectoire et nous accompagnons la famille dans la démarche. En théorie, chaque entrée en EHPAD nécessite l'accord du patient lui-même, même s'il est sous tutelle. Cependant, en pratique, peu de patients consentent de manière éclairée à entrer en établissement. Et il n'est cependant pas rare qu'ils y entrent quand même. Je rappelle fréquemment lors des consultations que le maintien à domicile ne vaut que s'il est bénéfique pour tous. Il n'est donc pas envisageable que l'aidant sacrifie sa santé et son bien-être au seul bénéfice du patient. Il faut donc, sans être trop alarmiste, soutenir l'aidant dans sa décision et expliquer au malade quels seraient les bénéfices apportés par son institutionnalisation. Malgré mes mises en garde, chaque année, des aidants décèdent prématurément ou juste après l'entrée en établissement de la personne aidée, car ils ont négligé leur santé et sont arrivés au bout de leurs forces, en moyenne 4 aidants par an sur ma consultation à Oissel. Concernant la demande d'entrée en établissement, nous, professionnels, avons un devoir de conseil auprès des familles, car il existe beaucoup de structures différentes et certaines qui donnent parfois un avis favorable à l'entrée du patient ne sont cependant pas en mesure de lui proposer les soins adaptés à son état actuel. Ainsi, il existe des EHPAD sans prise en charge spécifique proposée en cas de troubles cognitifs ou psychocomportementaux. Et cependant, ces structures accueillent correctement beaucoup de malades Alzheimer ou apparentés, mais ces résidents auront conservé des capacités d'adaptation et ne développeront pas de troubles psychocomportementaux productifs, comme on a parlé, l'agitation, l'agressivité, l'errance, qui seraient susceptibles de compromettre leur maintien dans ce type de structure. D'autres établissements disposeront de PASA, c'est ce qu'on appelle des pôles d'activité et de soins adaptés. Et ces EHPAD qui disposent de ces pôles, au sein de chaque pôle, on prendra en charge une ou plusieurs fois par semaine le résident pendant la journée, s'il est un peu plus turbulent, pour lui proposer des activités visant à apaiser ses troubles, à stimuler également le résident et à empêcher qu'il ne soit ostracisé par certains résidents, parfois moins tolérants vis-à-vis du trouble du comportement des autres. Certains EHPAD disposeront d'unités protégées, qu'on appelle également unités fermées ou autres cantous, qui accueilleront des patients présentant des troubles psychocomportementaux plus productifs, ne permettant pas leur prise en charge en unité classique. Quelques EHPAD se sont d'ailleurs destinés à accueillir uniquement des malades Alzheimer et apparentés, qui peuvent présenter pour certains des troubles du comportement productif, mais il y en a peu en France. Leurs tarifs sont parfois plus élevés, même si certains disposent de lits habilités à l'aide sociale. En cas de troubles très productifs, une entrée en unité d'hébergement renforcée, que l'on appelle UHR, sera indiquée. Ces UHR se trouvent au sein de certains EHPAD ou unités de soins de longue durée. Ainsi, dans ces unités protégées, dans ces EHPAD spécialisés ou ces UHR, il est important de préciser aux familles qui sont effrayées par cet enfermement que l'on va imposer aux patients, le patient étant lui-même peu accessible aux informations éclairées, que ce n'est pas le code et la sécurisation de l'accès qui comptent, mais c'est ce qui se passe derrière la porte. C'est ce que je leur dis toujours quand ils viennent visiter l'unité. Ne regardez pas la porte fermée, regardez ce qui se passe derrière. C'est la prise en soins adaptée, c'est l'accompagnement qui seront proposés aux résidents qui sont importants. C'est ça qui est important et ces structures auront la particularité d'être à la fois des lieux de vie, mais également des lieux de soins, avec leurs spécificités, dont une tolérance importante des troubles des patients par le personnel formé spécifiquement, mais aussi par les autres résidents eux-mêmes dans des unités à l'architecture adaptée. Il nous revient donc à nous, professionnels, d'aborder le sujet de l'institutionnalisation avec le patient et sa famille au moment opportun et de les accompagner dans ce projet en les aidant à effectuer les démarches. Nous devons soutenir bien évidemment le patient, mais également l'aidant, et le valoriser dans tout ce qu'il a entrepris auprès de son proche malade, d'autant qu'il va alterner souvent entre de nombreux sentiments contradictoires, culpabilité et épuisement, colère et dévotion par exemple. Il y aura lieu fréquemment de dénouer des conflits de loyauté. Papa m'avait fait promettre de ne jamais placer maman en EHPAD. Il faut aussi souvent faire tiers lors de conflits familiaux pour remettre le patient et sa maladie au cœur de la problématique, car la maladie, mais surtout l'entrée en EHPAD, peuvent être l'occasion de règlements de compte dans la fratrie ou avec le patient lui-même, ou de résurgence d'épisodes douloureux familiaux, notamment s'il y a des enjeux financiers. Il est également important de faire le point avec la famille sur ce qui est attendu de l'EHPAD pour éviter toute désillusion ou mécontentement ultérieur et ainsi éviter de mettre à mal l'équipe qui accueillera le patient. Si par exemple, on dit, ben oui, moi je ne veux pas que mon papa je veux que mon papa entre en EHPAD parce qu'à la maison, il tombe tout le temps. Il tombera souvent autant en EHPAD. Par contre, il sera relevé beaucoup plus vite. Mais forcément, la famille peut être mécontente parce que le papa continue de tomber. Mais ce n'est pas ça forcément le but de l'entrée en EHPAD. Donc, les familles sont souvent demandeuses de conseils pour savoir comment choisir le bon EHPAD. Pour moi, le bon EHPAD est celui qui a une proximité géographique et une accessibilité pour permettre les visites de l'entourage qui n'est pas toujours motorisé. Il ne faut pas négliger le coût, qui d'ailleurs n'est pas toujours proportionnel à la qualité de la prise en charge. Ce coût est souvent un frein important à l'entrée en institution et l'assistante sociale doit se mettre à disposition du patient et de sa famille pour déterminer le coût exact et l'éventuel reste à charge pour la famille. Il faudra également renseigner l'éventuel conjoint sur les ressources qui lui resteront pour vivre et les aides auxquelles il pourra prétendre. Il faut également pouvoir se renseigner sur le personnel, ses qualifications, son nombre. Ses formations spécifiques sont également à prendre en compte. Les caractéristiques du patient, car s'il présente des troubles psychocomportementaux sévères, il ne relèvera pas d'une EHPAD classique. Il est important, si l'EHPAD le propose, que la famille puisse visiter l'établissement avant l'entrée, en présentiel ou en distanciel, parce que c'est vrai qu'avec le Covid, ça a été plus compliqué, on ne peut pas visiter les établissements. Si possible, d'être reçu par le directeur, l'infirmière coordinatrice ou le cadre de santé, et dans les unités spécifiques, par le médecin responsable de l'unité, qui pourra expliquer les modalités particulières de prise en charge dans cette unité. Peu de temps avant l'entrée, il est important de procéder à une visite de l'EHPAD ou de la structure, si possible, par le futur résident, même s'il est très altéré sur le plan cognitif. C'est ce que l'on appelle la visite de préadmission. Ce moment est souvent redouté par les aidants des patients récalcitrants, mais il va permettre de reposer les choses, et il va permettre ce moment au patient de visualiser son futur lieu de résidence, de rencontrer le personnel et de pouvoir également poser des questions ou exprimer son opposition. Il a le droit. Il y aura lieu de le rassurer et de lui expliquer tous les bénéfices attendus à son entrée dans la structure qui va l'accueillir. Aborder l'entrée en EHPAD est donc un moment du parcours de soins du malade Alzheimer et il convient de procéder de la manière la plus diplomate possible en valorisant le patient, le ou les aidants, mais en sensibilisant également la dyade aidant aidée aux problématiques qui pourraient se poser à elle. Sans être alarmiste, il faut inciter au dépôt de demandes de précaution dans des établissements adaptés aux patients, à ses capacités de financement, si possible, et si possible avec son aval. Et en l'absence de désir particulier du malade ou d'urgence, il faudra privilégier le maintien à domicile s'il est profitable à tous. Il faut fréquemment déculpabiliser les familles, les valoriser et les soutenir dans leur rôle auprès du malade, tout en les alertant sur la dégradation des conditions de vie du couple aidant-aidé ou du malade s'il vit seul, pour envisager au moment le plus opportun pour le malade comme pour son proche d'entrer en établissement. Un accompagnement dans la prise de décision et lors de l'éventuelle entrée du patient doit donc être réalisé par l'ensemble des professionnels de la filière qui l'ont pris en charge, sans jugement, avec bienveillance et empathie. Cette décision reste difficile à prendre, mais elle est cependant souvent nécessaire pour le bien-être du malade et ou de son proche. Je vous remercie.
Merci beaucoup, docteur Marie Bérard, pour cet exposé. Est-ce que vous avez des questions? Bon, oui, madame, on va vous apporter un micro.
Oui, bonjour. Voilà. J'étais confrontée au problème avec ma maman, apparentée donc à Alzheimer. Elle avait une dégénérescence vasculaire. Le souci, c'est qu'elle était en résidence autonomie et que du jour au lendemain, du GIR 5, elle est passée au GIR 4 et on m'a demandé de la placer.
Alors effectivement, les résidences autonomie sont normalement là pour des patients qui sont encore autonomes. Alors généralement, la plupart des structures ne se fient pas uniquement au GIR, ils se fient également... parce que certaines résidences autonomie sont peut-être plus tolérantes que d'autres vis-à-vis de la dépendance. Ce qui va gêner vraiment le maintien dans la résidence autonomie, c'est la grande dépendance ou les troubles du comportement, notamment s'ils sont productifs avec des sorties nocturnes, par exemple.
Non.
Mais après, il y a le règlement de l'établissement qui nous est opposable. Et lorsque l'on signe un contrat de séjour dans un établissement, c'est là où il faut bien lire. La plupart du temps, les résidences sont quand même relativement compliantes et gardent parfois les personnes de façon importante. Et ça peut quand même parfois être un petit peu compliqué à gérer au sein de la résidence.
Une question derrière vous. Voilà, merci pour le passage de micro.
Bonjour. Alors, bonjour. C'est pas tant une question qu'un complément. En tant que directrice d'EHPAD et ou de résidence autonomie, quand j'ai fait des remplacements, pour le coup, en résidence autonomie, le souci, c'est quand les gens commencent à errer, ne puissent savoir retrouver leur chambre, aller taper chez le voisin la nuit. Et là, ça devient compliqué. Alors, je ne sais pas dans quel état était votre maman, mais moi, je sais qu'en tant que directrice de résidence autonomie, quand ça arrive, c'est vraiment très ennuyeux. Très compliqué. Et puis, justement, ce dialogue avec les familles aussi, qui sont des fois dans le déni du diagnostic, et ou qui ne veulent pas, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus confortable en résidence autonomie qu'en EHPAD. Enfin, l'aspect médicalisé, quand on vient voir, c'est moins simple.
Pour tout un tas de raisons.
Il y a tout un tas de raisons. Pour le coup, en tant que directrice d'EHPAD aussi, donc moi, je conseille vraiment cette visite de préadmission qui nous permet aussi, nous, aux équipes, de pouvoir passer un moment, percevoir quels vont être les freins, le degré d'adaptation de la personne. Et puis, nous, ce qu'on propose aussi, c'est que quand on est vraiment en amont aussi, on a des temps d'animation, il y a des fêtes à l'EHPAD, il y a des choses. Et du coup, les gens aussi, on leur dit, si vous voulez, ce jour-là, on vous prévient, et puis vous venez, et ça fait un temps d'apprivoisement. Et ça, peut-être que des fois, si on ne vous le propose pas dans les visites que vous pouvez faire en visite comme ça, vous pouvez demander, est-ce que je peux faire ça? Et je pense qu'on ne vous mettra pas de refus.
Voilà. Effectivement, notamment avant le Covid, il y avait beaucoup d'établissements qui proposaient, notamment aux personnes âgées de la commune, de venir passer peut-être une après-midi par semaine pour des temps d'animation avec les résidents. Et c'est vrai que ça permettait d'établir un lien déjà avec la structure de rentrer en confiance dans un établissement qu'on connaissait déjà, avec du personnel qu'on connaissait déjà. Mais c'est vrai qu'avec le Covid, ça a mis à mal un petit peu toutes ces initiatives qui étaient pourtant très efficaces.
Alors, je pense que c'est peut-être pas valable.
Est-ce que vous pouvez parler dans le micro, s'il vous plaît ?
Je pense que ça n'est pas valable dans les établissements publics, mais nous sommes dans la situation de souhaiter institutionnaliser l'entrée en EHPAD de notre maman, qui ne veut absolument pas en entendre parler. Qui est très virulente sur le sujet, mais qui accepte de faire un essai de 8 jours. Donc, on espère vivement qu'elle changera d'avis.
Est-ce que c'est possible
Oui.
En établissement privé, c'est possible. En établissement public, je ne sais pas.
Alors, en établissement public, il y a certains. Ça dépend des établissements. S'ils ont des lits qui sont autorisés pour faire de l'hébergement temporaire, ça existe dans le public. Ça existe dans le public comme dans le privé. Mais tous les établissements publics ou tous les établissements privés ne le font pas. La plupart des établissements privés le font quand même. Mais dans les établissements publics, il y a très peu de lits d'hébergement temporaire. Mais il y en a quelques. Sur la région de Rouen-Elbeuf, il y a quelques établissements publics qui peuvent proposer ça. Le prix est généralement à peu près le même, puisque généralement nos collègues du privé s'alignent globalement sur les prix du public concernant ces hébergements temporaires. Mais effectivement, le changement d'humeur de la personne qui parfois refuse d'entrer en établissement et puis le lendemain vous dit non, je ne sortirai pas de chez moi parce que c'est chez moi ici, c'est assez fréquent. On a beaucoup de patients qui rentrent et qui sont pourtant opposés à l'entrée, et puis qui, dès le lendemain, on voit qu'ils s'intègrent dans l'unité, qui commencent à se montrer souriants avec les patients, qui disent « c'est chez moi ici », qui ne veulent pas d'ailleurs « allez-vous-en de mon canapé puisque c'est le mien, je suis chez moi ici ». Voilà. Nous, c'est vrai que moi, personnellement, je travaille dans une UHR, donc on a des patients qui ont des troubles cognitifs et psychocomportementaux très sévères, donc les capacités d'adaptation sont moindres. Mais ça peut arriver quand même. On a certains patients qui mettent des mois avant de s'acclimater complètement à la structure, mais ce sont des gens qui ont des capacités d'adaptation très perturbées. Mais c'est un public vraiment très spécifique, c'est vraiment une niche de patients très particulière. Mais on a des patients qui arrivent et qui, pourtant, avaient des troubles du comportement très sévères. Je pense à une dame là, qui, tous les soirs, hurlait dans sa résidence autonomie, était très insultante et très agressive. Elle a toujours un vocabulaire assez soutenu, mais c'est une dame qui s'est parfaitement adaptée du jour au lendemain dans notre unité. Et la plupart du temps, ça se passe très bien, très vite et très bien. Par contre, ce n'est pas parce que ça se passe bien dans l'unité qu'on ne va pas pouvoir être désagréable avec sa famille qui vient vous rendre visite. Parce qu'en fait, ça va très bien se passer dans l'unité. Mais quand la famille vient vous voir, eh bien là, vous allez dire « Oh non, je ne suis pas bien ici. Ah non, voilà. Bon, » voilà. Mais ça, c'est, c'est très fréquent.
Oui, une autre question derrière vous.
Bonjour. Et donc, du coup, quels sont vos conseils aux aidants par rapport au déni de la personne âgée et du coup de son agressivité très forte par rapport à tous ces débuts la dégénérescence et prise en charge.
Alors, c'est vrai qu'on est toujours entre deux chaises, hein, entre soutenir les dents et en même temps valoriser le patient, puisque c'est lui qu'on soigne aussi au départ. Moi, je dis toujours à les dents qu'il n'y a pas de loi qui oblige le patient à accepter ses troubles. Voilà. Mais en même temps, on n'est pas dupe et on sait que les troubles sont là, mais c'est vrai que parfois c'est très très difficile pour la personne qui parfois est consciente, hein, parce que parfois quand moi je vois le patient à la consultation, il me dit mais moi je vais parfaitement bien, c'est ma famille qui dit n'importe quoi, moi je vais parfaitement bien, et puis il y a la famille qui est là, et puis quand le patient va passer les tests avec la neuropsychologue, il est tout seul, il va lui dire oui bon je me suis un peu emportée tout à l'heure, mais c'est vrai que peut-être que quand même, parfois, ma mémoire me fait un petit peu défaut quand même. C'est possible. Donc, moi, je n'appuie pas, en fait, là où ça fait mal, parce que je pense que sur le plan narcissique, ça peut être assez compliqué. On essaye toujours d'accompagner les gens vers de la formation, alors ou France Alzheimer, ou l'éducation thérapeutique pour les aidants, parce que cette façon de savoir se comporter avec quelqu'un qui a des troubles cognitifs et éventuellement qui en est dans le déni, si on est formé à faire face à ça, généralement, on va réagir d'une façon plus adaptée aux patients. L'idée, c'est de ne pas le mettre en échec, parce que sur le plan narcissique, c'est insupportable pour lui, et ça va générer de la colère et de l'hostilité, et c'est tout ce qu'on souhaite éviter. Donc, on ne peut pas obliger le patient à accepter des troubles. Et deuxièmement, il faut se former, il faut se faire aider par des professionnels. Il y a France Alzheimer, il y a les équipes spécialisées Alzheimer. Nous, on a développé un programme d'éducation spécifique thérapeutique. Près de chez vous, il y a forcément un programme qui peut vous aider et je vous conseille vraiment de vous y inscrire.
Oui, une autre question ?
Alors moi, j'ai une question, mais je vais peu répondre aux gens qui sont dans le début et de la prise en charge, etc. J'avais effectivement, par ma mère, déni total. Au bout de 10 ans, elle est toujours dans le déni. Et donc, effectivement, quand on lui a parlé avec mon père d'aller en accueil de jour en EHPAD, ça a été non, bien évidemment. Sauf que, on l'a contrainte, entre guillemets. On lui a expliqué que, de toute façon, elle allait faire une expérience, qu'on allait tenter, etc. Et pour rien au monde aujourd'hui, elle ne raterait une journée dans l'EHPAD. Donc, elle y va. On a la chance qu'elle soit prise en charge 3 jours par semaine. Et elle dit que c'est les meilleures journées de sa semaine. Donc, malheureusement, quand on vous dit qu'il faut que ce soit effectivement avec l'acceptation du malade, le malade n'est pas toujours en état d'accepter, en état d'analyser la situation. Et il faut parfois un peu le forcer.
Forcer un petit peu.
Voilà. Gentiment, il y a une prise en charge. Enfin, moi, les EHPAD, j'ai toute confiance en eux, et donc faut effectivement et ils sont généralement heureux après. Alors moi je continue parce que quand vous dites moi j'ai aucun problème à concevoir avec mon père d'ailleurs l'entrée en EHPAD de ma mère, on a des expériences de accueil de jour, de séjour temporaire dans la nécessité quand mon père a eu des opérations, sauf que là ce qui bloque, c'est le nerf de la guerre dont on parle pas du tout, c'est la prise en charge financière, c'est-à-dire qu'on parle pas du tout du coût bien évidemment des EHPAD, c'est-à-dire que tout est fait pour encourager le fait de rester à la maison. Donc on a une aide, on a l'APA, qui est beaucoup plus importante avec les soins à la maison. Donc là, les 3 jours, les soins, la toilette, etc. Puisqu'elle était dans la salle de bain, elle ne se souvenait plus de ce qu'elle avait fait. Donc voilà. Sauf que quand elle est en EHPAD, l'aide est absolument ridicule. Et il y a un gros problème. Enfin, moi, je ne sais pas si ça peut devenir un débat de société. Le problème, c'est qu'on a de plus en plus de gens atteints de la maladie, donc ça va être compliqué. C'est que c'est une maladie, on est bien d'accord. Moi, si je place... Mon père n'en peut plus. On ne peut pas le placer ma mère parce qu'il y a un problème de financement. Nous, il n'y a pas de problème, on la placerait tout de suite. Donc là, il y a un gros problème, c'est-à-dire que c'est une maladie, mais qui n'est pas prise en charge comme une maladie. Si on la place, ce ne sera pas du confort. Ce ne sera pas parce que moi, j'ai plus envie d'être toute seule à la maison, je préfère être en maison de retraite, ou j'ai un souci, on ne peut plus s'en occuper, ou on n'a pas envie de s'en occuper, et on la place. Nous, ce n'est pas ça. C'est que si on la place, c'est parce que ce ne sera plus possible du tout. Et donc là, le problème de la prise en charge financière est crucial. Elle n'est pas considérée comme une malade. Alors parce que quand on est malade, il y a une prise en charge à 100%, des grandes maladies comme le cancer, etc. Alors que là, elle entre en EHPAD, c'est quoi ? 300 euros de l'APA ? La retraite de mon père ne couvre pas.
Je vous propose de laisser le docteur Girard vous répondre.
Oui, effectivement, je vous ai abordé un petit peu le sujet tout à l'heure. Hein. La question de l'argent est par moments cruciale. Il va faire que la personne ne va pas pouvoir rentrer en EHPAD parce qu'il n'y a pas de financement possible. Et pourtant, on a un aidant qui s'épuise et on peut arriver effectivement à la catastrophe. Je n'ai malheureusement pas de solution à vous proposer. Effectivement, là, on est sur des établissements qui ne sont pas sanitaires mais médico-sociaux. Et effectivement, il y a une participation des familles. De même que l'accueil de jour est payant, de même que voilà, il y a tout un tas de structures qui sont payantes, alors que d'autres structures, dans d'autres types de pathologies, seront prises en charge. Il y a effectivement une grande inégalité, une grande injustice. Nous, on essaye vraiment de travailler toujours avec les familles au maximum, mais effectivement, il y a un coût, un reste à charge qui n'est pas toujours facile, d'ailleurs, de déterminer avant l'entrée. Et parfois, on voit les familles arriver au bout de 2 mois avec les factures en disant « Mais attendez, regardez, il y a ça. » Comment on fait, quoi ? Et donc, nous, c'est un gros travail avec l'assistante sociale. Et effectivement, on explique aux familles que le maintien à domicile, c'est ce qui coûte le moins cher en termes de financement. Mais en termes d'investissement humain, c'est ce qui peut parfois être très complexe. C'est ce qui c'est le plus... Alors, je ne sais pas si c'est le plus dur, parce que passer la main à un EHPAD, parfois, pour l'aidant, c'est extrêmement difficile, qui va se retrouver désœuvré et qui ne saura plus quoi faire parce que son centre d'intérêt principal n'est plus avec lui. Et parfois, c'est presque plus dur pour eux de les avoir mis en institution que qu'ils soient à côté. Enfin, ils oublient très vite les mauvais côtés pour ne garder que les bons, parce qu'ils se retrouvent seuls. Mais c'est vrai que le versant financier est essentiel et est très discriminant, voilà. Effectivement, dans la prise
Alors,
en charge.
Alors, c'est peut-être pas le lieu, mais moi, j'interpelle les politiques. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un point... Voilà. Donc, j'interpelle les politiques sur quelque chose, effectivement, de crucial. C'est comme un cancer du cerveau, sauf qu'on ne le soigne pas, on ne le prend pas en charge comme un cancer. Et pour les familles, moi, je sais que j'ai peur simplement que mon père y reste.
Oui, bien sûr.
Tout simplement. Il va partir avant elle. C'est évident. Donc, voilà, c'est un problème politique qui n'est pas du tout évoqué. C'est pour ça que je suis en partie là. Tout le débat est vraiment passionnant. Mais on n'entend jamais parler de ça à la télévision ou dans tout ce qu'on peut lire sur Alzheimer. Donc, et c'est un problème crucial. Tout on ne parle fait. Jamais de la prise en charge des frais d'EHPAD.
Bon, en tous les cas, Madame Sophie Carpentier vous a entendu. Elle est au premier rang et elle a été très attentive à votre témoignage.
Si je reste sur ce temps d'échange, c'est justement pour entendre un petit peu les demandes et puis comprendre exactement. Je ne suis pas personnellement confrontée, mais c'est important de rencontrer les personnes qui sont confrontées à ce type de choses. Effectivement, je l'ai dit en introduction, il y a beaucoup de choses sur lesquelles les axes politiques doivent se positionner. Je l'ai dit, sur la prévention, sur le logement et sur la reconnaissance des personnes qui accompagnent les personnes atteintes de maladies d'Alzheimer ou apparentées, puisqu'il faut les reconnaître comme aidants, mais aussi comme participants aux soins. Donc il y a énormément de choses à faire évoluer par rapport à notre société, j'en suis consciente. On fait les démarches qu'il faut et ensuite, voilà. Mais effectivement, ma présence aujourd'hui, c'est également pour écouter et entendre ce qui est dit aujourd'hui de façon à pouvoir ensuite travailler avec les personnes qui font les lois.
Merci beaucoup, Madame Carpentier. Merci beaucoup aussi, docteur Girard.
Oui, je voulais juste revenir sur ce qu'a évoqué madame concernant l'accueil de jour. Ma maman est prise en charge 3 fois par semaine en accueil de jour. Et en réalité, on a été guidés vers ce choix par la Maya. Maintenant, elle n'est plus suivie par la Maya puisque ce n'est plus la Maya. Mais elle y est allée. Et maintenant, ce sont les journées qu'elle préfère. Et de loin, elle est tellement heureuse. Donc, c'est très ambivalent. Elle ne veut en aucun cas aller en EHPAD, mais l'accueil de jour, elle adore. Alors moi, j'avais posé la question à l'accueil de jour, qui était un peu idiote d'ailleurs. Est-ce qu'elle ne pourrait pas y aller une journée de plus ? Ben oui, mais non, parce qu'après, c'est EHPAD. Enfin, voilà, quand on y va beaucoup, c'est EHPAD, c'est la case directement EHPAD. Ouais.
Et puis en plus, elle pourrait se retrouver dans un groupe de personnes avec lesquelles elle sera peut-être moins bien dans certains groupes, qui pourraient du coup lui renvoyer une image assez négative, parce qu'il y a des groupes différents. Et il faut faire attention d'être vraiment dans un groupe qui est adapté à soi.
Voilà. Mais en fait, ce qui compte pour elle, c'est de revenir chez elle le soir. Ouais. elle peut se gérer le soir, la nuit, vous voyez, c'est pas. Mais c'est très bien d'aller en accueil de jour un peu plus. C'est dommage qu'il n'y ait pas une marche, un palier. Vous voyez,
à la fois
domicile, à la fois. J'en ai parlé avec le gériatre et il me dit c'est dommage qu'on ne puisse pas placer les gens un peu plus. Voilà. Je pense que ce serait une solution qui serait bien également. Voilà.
Merci pour ce témoignage. Monsieur, il faut absolument qu'on avance parce qu'on est très en retard sur l'heure. Merci beaucoup, docteur Girard, pour votre intervention. Mais vous.